Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
La première émission de radio à la carte.
Mario Dumont est avec nous avec sa nouvelle coiffure. Monsieur Dumont, bonjour.
Bonjour.
T'es-tu café hier? T'es-tu coupé les cheveux? T'as-tu reçu ton kit?
Pas vraiment. C'est arrivé hier soir. Marie-Claude avait déjà œuvré avec des ciseaux bien ordinaires, des petits ciseaux à 3$ et tout ça. Mais mon kit de coiffure, c'est ça que tu réfères que j'ai mis sur Twitter.
Oui.
Qu'on avait commandé toute la famille en avril en se disant, hey, ça nous prend ça, mais le vrai petit kit avec les ciseaux, là, puis les deux sortes, là, les deux sortes de ciseaux, le ciseau à mincisseur, puis l'autre, puis le peigne. Pis...
Mais toi, ben, je t'ai jamais vu...
Le petit coffret est arrivé hier soir.
Je t'ai jamais vu dépeigner, Mario.
Ah non?
T'es toujours peigné sur le côté, assez, t'as une grosse touffe de cheveux, puis...
Oui. Mais c'est-à-dire que ça fait des...
Ça fait longtemps que t'es peigné pareil.
À un moment donné, ça fait des bosses, là.
C'est quoi?
Oui, quand ça vient trop épais, là, il y a plus de, ça fait des vagues, des bosses, appelle ça comme tu veux.
Okay,
comme
mais
comme les lanières
là.
D'un casque de bicycle, là, tu comprends?
Mais plains-toi pas, là, tu sais. Moi, je veux entendre personne, je veux pas entendre un homme se plaindre parce qu'il a trop de cheveux, là.
Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a amusé quand même pas mal de monde sur Twitter. À la veille de la réouverture des salons de coiffure, 2 mois plus tard, on reçoit le kit qu'on avait commandé en avril.
Retourne-le, n'a pas besoin.
Non, c'est pratique d'avoir ça à la main. Non, puis je veux dire, les salons de coiffure sont pas encore ouverts là, pour la région de Montréal. Ouais. Mais restons calmes.
Bon, parfait. Mais laisse-toi pousser les cheveux. Sois délinquant une fois dans ta vie. Sois pouilleux.
J'ai eu long quand même à l'époque des groupes rock, les années 80. Là.
Ben, 6 mois.
J'ai eu long?
Ouais.
Non, 2 ans.
Oh, pas plus.
Ans, je sais pas.
Arrête donc.
1 an et demi, 2 ans. Bon. On stand de ça, là. Quand t'en as épais, c'est pas confortable.
Ouais, non, c'est de la job, hein. C'est de l'entretien. Comme Roger Gigas, comme un gros nez. C'est beau, mais c'est de l'entretien. Tu te souviens de... Bref. L'histoire de la prestation aux aînés qui arrive quelque part au mois de juillet.
Ouais. Et là, hier, peut-être on a eu des courriels. Il y a des aînés qui sont outrés. D'abord, il y en a qui trouvent que c'est long, Monsieur Trudeau. Monsieur Trudeau était sous pression, là, parce que les aînés disaient, nous oublier. Était sous pression, donc à un moment donné, il voulait faire une annonce, l'a faite, le 12 mai. Là, les gens commençaient à dire, depuis quelques jours, j'avais vu ce message-là passer, ben voyons, là, on a reçu notre chèque de pension, on n'a pas eu l'addition là, que M. Trudeau avait annoncé, comment ça se fait qu'on ne le reçoit pas? Et là, donc, hier, a senti le besoin de donner une date, mais la date, c'est dans la semaine du 6 juillet, ce qui va arriver essentiellement 2 mois après l'annonce initiale. Il y a des gens qui trouvent ça long. Mais là, Benoît, je suis obligé de te dire que M. Trudeau est un peu pris dans ses patentes. Parce qu'initialement, les aides financières de toutes sortes devaient, ça, on s'est déjà parlé de ça, devaient aller vraiment des aides de dernier recours. Qu'on pense à la PCU, on disait des gens perdent du jour au lendemain leur emploi sans avertissement. Dans certains cas, les deux membres du couple se retrouvent sans emploi. Il faut qu'on puisse payer l'épicerie, le loyer, la base. Il faut qu'on rende très, très, très rapidement de l'argent, de la liquidité disponible pour les gens. Ce qui a été un gros succès dans le cas de la PCU. Est-ce qu'on l'a mis trop facile pendant trop de mois et au point où les gens, après ça, pouvaient avoir leur emploi et ne le reprenaient pas? Ça, c'est une autre affaire.
Oui, puis là, les fraudeurs se gavent.
Donc, là, les fraudeurs se créent un faux compte. Puis oui, ça va être un beau problème tantôt. Des gens qui vont se faire demander de rembourser de la PCU qu'ils n'ont jamais eu parce que c'est un bandit qui a créé un compte à leur nom. Mais enfin, là les aînés, comment est-ce qu'ils se disent? Ils disent, hey, là, la PCU, ça a été livré en 2 semaines, un temps record. La PCU pour étudiants, ça a été livré vraiment vite aussi. La subvention salariale, quand même pas pire. Comme il y a une impression de passer dernier. Mais là, en même temps, je te rappelle que l'aide qui devait être une aide de dernier recours, dans le cas des aînés, c'est pas tout le monde, là. Il y a des gens, des personnes âgées.
Tu l'as jamais aimé, ce programme-là
ben
pour les aînés?
Non, c'est qu'en la donnant à tout le monde, là. Écoute, moi, j'ai eu trois séries de commentaires là, quand ça a été versé. Il y a eu des aînés qui m'ont dit, parce que j'étais quand même sceptique, qui m'ont dit, on a vraiment besoin. Des gens vraiment pauvres, là, qui ont le supplément de revenu garanti, qui n'ont pas de revenus, puis qui disent, nous autres, là, ça a l'air de rien, mais le petit 6$ pour livrer l'épicerie, toutes sortes d'affaires de même, là, ça a fait une différence, puis des loisirs, on n'avait pas. Puis, on a besoin d'argent. OK. T'as un deuxième groupe qui était vraiment sur le fond du principe. Qui me disait, M. Dumont, vous ne ferez pas croire que vous n'avez pas remarqué ça, que M. Trudeau en a donné à tout le monde, vous voudriez que nous autres, on soit les oubliés. Donc, il en faisait une question d'équité. Mais ce n'est pas une question d'équité. C'était une question de survie. On était en survie, on n'était pas en équité. On était en survie, il faut mettre de la liquidité dans les poches des gens qui sont mal pris, qui ne peuvent plus payer l'épicerie. Or, il y a beaucoup d'aînés, puis là, j'en connais, j'en ai plein autour de moi, là, proches, qui me disent, ben là, Le confinement, on trouve ça terrible. Là. On est enfermé chez nous, puis on voit plus nos petits-enfants. Dire, la liste des désagréments, elle est longue et douloureuse. Mais, financièrement, plus de loisirs, plus de sorties, plus le droit d'aller au resto, plus ci, plus ça, plus d'essence dans le véhicule parce qu'on fait plus rien.
Mais c'est parce que aussi qu'il y avait des revenus assurés là chez les aînés.
Ben oui,
c'est comme
des rentes,
les pensionnés de l'État là, tu sais,
rien qui a été coupé, c'est ça, les pensionnés de l'État, mais plusieurs, ceux qui ont des régimes de pension, il y a rien qui a été coupé. Donc il y a des gens qui me disent ben écoutez monsieur Dumont là, nous autres là, la vie nous coûte moins cher là, on n'a pas besoin d'argent monsieur Trudeau, on voudrait des loisirs, on voudrait nos petits-enfants, on voudrait une foule de choses.
Ouais.
Mais pas de l'argent. L'argent, on n'est pas plus pauvre. La COVID nous a pas appauvris. Au contraire, à la limite, la COVID, on a fait des économies, on a mis de l'argent de côté. On a fait des économies. On peut pas dépenser, on peut pas vivre, on peut pas rien faire.
Là, Justin Trudeau, il a le temps là de se réajuster. En tout cas, tu sais, quand on voit Rémi Nadeau qui nous disait les pensionnés de l'État qui ont quelques contrats ici et là, qui perdent des contrats à cause de la COVID, était compensé. Là, tu dis, comment?
Mais eux, ils n'ont pas eu juste le petit 500$. Ils sont allés chercher 2000 par mois, la PCU.
Ouais, c'est ça.
Mais j'allais te dire, donc, les aînés, le problème de M. Trudeau, c'est qu'en versant en juillet de l'aide pour des problèmes financiers que les gens, parce que ceux qui ont eu des problèmes financiers, là, qui ont eu des dépenses, c'est surtout en mars, avril, c'est comme s'il vient un peu dire lui-même, bon, j'oserais pas dire qu'il voulait des votes, là. Mais il vient dire lui-même qu'il n'y avait pas tant d'urgence que ça, là. Parce que si t'es fait attendre aussi longtemps, si tu penses que des gens sont, comme dans le cas de la PCU, si tu penses que des gens sont vraiment là en mal de payer l'épicerie, tu peux pas attendre 4 mois pour leur faire le versement. Là.
Non.
Si tu attends 4 mois pour leur faire le versement, c'est un peu comme si il faisait, dans son délai, dans le fait de les faire attendre autant, il faisait l'aveu que pour une bonne partie des aînés, c'est plus pour être fin puis dire regarde là tout le monde en a reçu, je vous oublie pas, tout le monde va en avoir de l'argent, vous autres aussi, plus que la réponse à un véritable besoin. Puis pour ceux, parce que je ne nie pas que pour quelques-uns parmi les aînés, pour une proportion qui sont vraiment pauvres et pour qui c'était vraiment un besoin, mais là ils ont raison de dire ça n'a pas de bon sens, attendre jusqu'au 6 juillet ou la semaine du 6 juillet, c'est vraiment long si tu as connu durant la fin de l'hiver ou le début du printemps des problèmes financiers. Mais je te dirais que le délai vient un peu compléter l'explication d'une mesure qui aurait été bizarre et où peut-être on aurait dû cibler strictement les plus démunis, d'autant plus...
Non, mais ils vont mettre cet argent-là de côté, Mario, puis ils vont aller le dépenser en Floride, c'est correct. C'est les snowbirds là qui vont
mieux.
Les snowbirds vont avoir caissé ça puis ils vont aller mettre ça dans un Winnebago quelque part.
Puis Benoît, j'ai peut-être l'air chiche là, puis de
dire, non,
faut pas donner à tout le monde. Non, mais faut toujours se souvenir d'une chose là.
Ouais.
Tout cet argent là, il y a pas une scène qu'on a là, c'est 100% emprunté.
Ouais.
100% emprunté, donc devra être remboursé. Tu sais, les grands-parents qui le reçoivent doivent penser que ça va être 100% remboursé par leurs enfants, et probablement même pas leurs enfants,
leurs petits-enfants. Ouais, absolument.
Bon, il n'a plus d'argent dans les coffres, donc c'est 100% des emprunts là, qu'on se redistribue.
Ouais. Il y a le projet de loi 61 là. Ben, tu sais au Québec, c'est ça. Là tu dis on va procéder, ça va rouler, on va le faire. T'es critiqué ou on passe par la bureaucratie, on remplit les formulaires, on prend un numéro puis on se met en ligne puis on attend notre tour, puis c'est critiqué.
Il se fait rien, ça niaise, ça traîne, ça prend des années, t'es critiqué.
Toujours.
Mais en fait, je te dirais que les partis d'opposition ont pas nécessairement 100% tort là. On a vécu le traumatisme de la commission Charbonneau.
Certain.
On sait qu'aujourd'hui en 2020, les projets doivent respecter des critères environnementaux, c'est pas faux de dire ça.
La vérificatrice générale qui sort le même jour pour dire presque la moitié des projets sont mal évalués. Ça nous a coûté un quart de milliard à cause d'incompétence du ministère des Transports. Faut mettre dans balance.
Ceci dit, quand l'opposition hier se lève en chambre pour dire là, ça n'a pas de bon sens le projet de loi 61 au Québec, là, ça va trop vite. Ils ont un déficit Tu sais, mettons pour les gens qui suivent ça de loin, les gens à la maison, le projet de la ligne bleue de métro, juste rappeler aux gens que moi, quand j'étais en politique il y a 13 ans,
ouais.
J'ai donné une approbation parce qu'ils avaient demandé à l'époque que pour que ça aille plus vite, là, que les partis d'opposition donnent une espèce d'approbation de principe pour dire go, allez-y, on critiquera pas. Une espèce de processus accéléré.
Pas trop
Et moi, j'ai donné le feu vert à ça. En 2007.
Trop vite.
En 2007. Puis là, en 2020, il n'y a pas un coup de pèleronde de donner, là. Là, tu comprends que quand les gens se lèvent en chambre pis hurlent, ça va trop vite.
C'est ridicule.
Ouais, c'est ouais. L'autre affaire. Et là, la réponse de Legault hier était quand même dit.
Non, mais attends, Mario. Tu sais, l'autre affaire, là, quand Marc Tanguay dit qu'on retourne à l'ère de Maurice Duplessis, tu hausses pas les sourcils, tu dis, tu peux pas trouver une meilleure formule que ça, tu peux pas trouver des exemples plus concrets.
Je veux pas pour dire qu'on retourne à l'ère de Jean Charest.
Ça serait pire. Ouais, sacramouille, oui. Là, il y en a une couple qui se frotte les mains puis ils disent, oh boy, on fait de l'argent.
Regarde, il faut trouver le juste équilibre, je comprends. Et j'ai aimé la formule de François Legault qui dit, on veut pas baisser les exigences, autant en matière d'éthique que d'environnement, on veut pas baisser les exigences, on veut pas réduire les exigences, on veut réduire les délais. Et il a quand même dit, Monsieur Legault, hier, ça m'a un peu étonné, on veut pas utiliser le baillon. On veut vraiment, on va faire les compromis, on va s'asseoir, on veut travailler avec les partis d'opposition pour obtenir une espèce de consentement général à ça. Mais pour l'instant, les partis d'opposition ont l'air contre. Mais d'après moi, leur position va être dure à tenir, là, dans le sens que maintenant que les partis d'opposition bloquaient vraiment le projet de loi, un projet de loi d'accélération des investissements pour relancer l'économie dans l'après-pandémie. Moi, personnellement, je trouve que ce serait dur à tenir, puis de convaincre les Québécois que pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut bloquer ce projet de loi, c'est parce que la tendance générale au Québec, c'est que les projets se réalisent trop vite. À un moment donné, faut que quelqu'un se lève debout pour mettre un frein. D'après moi, c'est... D'après moi, c'est de l'ouvrage à tenir comme position.
Ça va. Écoute, c'est difficile à justifier.
La vérité, Benoît, les projets au Québec, là, c'est que on tataouine, on niaise, on étudie, on réétudie l'environnement, les ci, les
on ça, fonctionne aux fax.
On vérifie.
On fonctionne aux fax.
On fait une étude, on faxe l'étude. D'autres fonctionnaires réétudient l'étude sur l'étude.
Mais c'est trop vite.
On passe ça devant un comité, on consulte, mais on le fait jamais, là.
Come on.
Ça va. Mais en plus, on veut faire quoi? Essentiellement, les trois grandes catégories de projets, là. C'est des transports en commun, des écoles.
Ouais.
Puis du secteur de la santé, l'hôpital,
maison des aînés,
pour aînés.
Surtout. Ouais.
Ouais. Hôpitaux rénovés ou résidences pour aînés.
Ouais.
On n'est pas non plus dans, on n'est pas dans des tours à condos à haut rendement, tu sais, payantes. On est dans des infrastructures de services publics de base, là.
C'est pas le plan Nord, là. C'est pas la bullshit de Jean Charest, là.
C'est transport en commun. C'est des écoles rénovées. Rénover les écoles, là. On s'entend-tu, ça? La nécessité de ça. Mettons, lève-toi en chambre, Benoît, et toi, là, dis, là, les rénovations d'écoles au Québec, ça a été trop vite. Ouais. Ça va trop vite, ça. Les écoles tombent en morceaux. Les gens s'empoisonnent parce que l'air est vicié, parce qu'il y a des champignons, parce que l'eau rentre dans les toits.
Ça prend 5-6 ans avant de construire une école, ce qu'on a eu dans Hochelaga-Maisonneuve ici, alors qu'on monte une tour à condo avec un stationnement puis une piscine sur le toit en 9 mois.
C'est le meilleur résumé.
C'est trop vite. Là, il faut que les partis d'opposition, là, sais-tu quoi, je sais pas ce que t'en penses, Mario, j'ai l'impression que là, tout à coup, les partis de l'opposition, là, se disent, OK, le pire de la crise est passé, on va se remettre à planter tout ce qui dépasse de la part du gouvernement.
Ils ont pas tort d'appeler à la prudence. Un des risques de faire des projets trop vite, c'est ça, là, c'est que des gens se graissent la patte. Donc, j'espère juste que ce sont des mises en garde et non pas qu'ils vont bloquer. Qu'il faut qu'ils trouvent des solutions pour que l'accélération soit possible, parce que je pense qu'elle est largement souhaitée.
Moi, je défie Dominique Andelade de dire, on veut pas revivre une autre commission Charbonneau.
Formuler autrement.
Vas-y.
Non, mais je sais pas comment, mais elle va le formuler autrement. Mais hier, j'avoue que pour Marc Tanguay, de retourner à Maurice Duplessis, c'était audacieux.
Retournons, ta ligne est bonne. Retournons à Jean Charest. Bon, et ce tournoi des premiers ministres?
Oui, qui prend une tournure nationaliste, qui laisse entendre peut-être que l'auditoire de Cube était, ou ceux qui votent en tout cas sont nationalistes, parce que là,
ça a l'air,
faut dire que moi je suis peut-être biaisé. Moi j'aime Daniel Johnson père, j'aime beaucoup Monsieur Parizeau aussi, avec la différence que Monsieur Parizeau je l'ai connu.
Ouais.
Et Daniel Johnson père, je l'ai pas connu personnellement, là, il est décédé avant que je naisse. Mais 87% contre 13, donc c'est Jacques Parizeau, qui est resté une icône. Moi, j'ai jamais l'habitude d'utiliser l'expression de son vivant qu'il était le pape là, des souverainistes. Donc, il a gardé quand même une forte image.
Bâtisseur du Québec moderne aussi, là, avec plusieurs. Oui.
Ah, mon Dieu, bâtisseur du Québec moderne. c'était l'époque là qui m'a été racontée par M. Parizeau et par d'autres qui ont travaillé avec lui. Un qui avait été M. Marié, qui a été conseiller municipal de Québec, qui avait été secrétaire personnel de M. Parizeau dans les années 60, quand M. Parizeau était un haut fonctionnaire. Mais tu sais qu'avant 30 ans, là, il y avait 24 années, Jacques Parizeau était un haut fonctionnaire au ministère des Finances. Parmi ceux qui disaient, ben là, il faut s'en aller à New York. Tu sais, il fallait lever de l'argent pour construire des barrages ou faire des grands projets. Puis le monde disait, est-ce qu'on emprunte ça, de l'argent? Puis Parizeau disait, ben, il était avec un petit groupe, mais de plus jeunes. C'est comme une époque qu'on s'imagine plus, là. Tu sais, on dit les jeunes, aujourd'hui, des fois, ils ont bien des barrières devant eux. Mais à l'époque, là, à 25 ans, à 28 ans, ils disaient, on va aller à New York, on va débarquer à New York. Sur les marchés financiers, maintenant, là, les gens prêtent aux États, ils prêtent au gouvernement, on va emprunter, on va construire. Et ils ont fait la caisse de dépôt et de placement. Tu sais, ils avaient, Parizeau et compagnie, des histoires à raconter. Quand ils étaient jeunes fonctionnaires aux finances, je te compte ça vite, on me racontait qu'ils avaient, il y avait, je pense, c'est le ministre des Finances de la France à l'époque, qui avait créé une espèce d'équivalent de la caisse de dépôt. Et eux, ils voulaient vraiment ça qu'on ait au Québec, quelque chose comme la caisse de dépôt et de placement. Et ils avaient arrangé le placement des tables dans un grand dîner d'État Québec-France, pour que M. Lesage, qui était sceptique, lui, à ça, puis les milieux financiers avaient convaincu M. Lesage que c'était pas une bonne affaire, la caisse de dépôt. Alors, ils avaient arrangé le placement des tables pour que M. Lesage soit assis avec cette personne-là, puis pour que le sujet soit abordé, pour que le français puisse expliquer. En fait, tu sais, il était mal commode, mais tu sais, débrouillard. Mais tu sais, tu dis ça, c'était... Ça, c'est Jacques Parizeau avant l'âge de 30 ans. Là, t'imagines toute la carrière après, l'accumulation de connaissances, une culture incroyable, jusqu'à devenir premier ministre, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est des personnages plus grands que nature, mais Daniel Johnson a été aussi, pour moi, même avec un court mandat, un premier ministre charnière sur l'esprit nationalisme, égalité ou indépendance, là, un message qui allait, tu sais, lui qui avait une grosse écoute dans le Québec des régions, pis tout ça, sur le fait que dans le Canada, il fallait que le Québec tienne son bout. On sous-estime ce qu'il a pu jouer comme rôle. Et je pense que lui, ça, il aurait pu changer le cours de l'histoire si Daniel Johnson n'était pas décédé. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Combien de mandats il aurait fait? Parce que les Québécois étaient attachés à lui, là, il était aimé. Mais il est décédé après 2 ans seulement en fonction.
Alors, Jacques Parizeau à 87%, Daniel Johnson
à 13%. Je pense en
demi-finale. Parfait. On va suivre ça. Et c'est Richard Martineau qui tient les comptes, comme tu nous l'as rappelé hier, Mario. Parfait. Hey, bonne fin de semaine. On se reparle lundi.
Salut.
Salut.